Nous sommes entourés d'historiens pour ces rendez-vous de l'histoire de Blois. Et puisque nous sommes à Blois, nous allons entendre un grand historien, la voix de Fernand Braudel.
L'histoire en train de se faire se signale par des couleurs très vives, des éblouissements, des mises en demeure catégoriques, une sorte de tragédie à laquelle beaucoup d'historiens ne croient pas, et moi le premier.
C'est ça. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est l'histoire ?
L'histoire, c'est un dépassement de l'événement. C'est un dépassement de l'événement parce que je ne crois pas que ces nouvelles sonnantes, comme on disait au XVIe siècle, elles soient l'essentiel de la vie des hommes.
La voix de Fernand Braudel, un historien qui a beaucoup compté pour vous, Isabelle Landonna, bonjour.
Bonjour.
Beaucoup compté pour vous parce que vous êtes beaucoup intéressé à l'Italie. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Vous avez co-dirigé le cloître et la prison et vous avez publié Règles et dérèglements en milieu clos, édition de la Sorbonne. À côté de vous, Delphine Diaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Vous avez co-dirigé Exil entre les deux mondes, migration et espace politique atlantique au 19e siècle aux éditions Perséide. Et nous recevons Riyad Satouf. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour.
Vous publiez le troisième tome de l'Arabe du futur aux éditions Alary. Vous allez être interrogé par nos deux historiennes. Et tout d'abord, Isabelle, peut-on dire dans quel contexte nous recevons Riyad Satouf ?
Alors, nous recevons Riyad Satouf dans le contexte des rendez-vous de l'histoire, bien sûr. Et Riyad Satouf préside le Salon du Livre et fera à ce titre un certain nombre d'interventions. Nous le recevons à cause de, ou plutôt grâce à la publication de l'Arabe du futur chez Alary Édition, un roman graphique, expression que Riyad Satouf n'aime pas trop, si j'ai bien lu les interviews, et à laquelle il préfère le terme de livre. Un livre donc qui est une autobiographie et dont le sous-titre est Une jeunesse au Moyen-Orient, qui dit bien le cadre, très changé récemment en raison de la guerre, dans lequel se déroule ce roman.
Delphine Diaz, de quoi parle ce livre ?
Alors le premier tome, paru en 2014, raconte comment le petit Riyad, né de père syrien, de mère bretonne, est ballotté de 1978, année de sa naissance, à 1984, entre Libye, Bretagne et Syrie. Dans le deuxième tome, le héros, donc vous, vit sa première année d'école dans le village syrien de Termale, non loin de Homs.
Et voilà, Riyad Satouf, c'est vous le héros. Et Isabelle, est-ce que l'on peut essayer de résumer le troisième tome, donc ce troisième volume des aventures de Riyad Satouf qui vient de paraître ?
Alors ce troisième tome est consacré aux années 1985-1987, donc deux années de la vie du jeune Riyad, qui prend alors conscience de la société dans laquelle il grandit, de ses tensions, de ses pesanteurs, toujours dans le petit village de Termale, non loin de Homs. Son cadre immédiat est sa famille franco-syrienne, qui a l'expérience du partir revenir par choix, avec un père professeur d'université formé en partie en France, une mère qui accepte de vivre dans ce village et s'en plaint, un petit frère avec lequel il se chamaille, Yaya, et une famille paternelle.
Allez, première question à Riyad Satouf, Isabelle.
Alors, l'une des premières questions, justement, qui nous est venue à l'esprit, à Delphine et à moi, concernant cet ouvrage, tient à cette famille, à la représentation que vous en donnez, Riyad Satouf, dès les premières pages du tome 3 de l'Arabe du futur. Une famille dans laquelle il y a des rôles familiaux, comme dans toutes les familles. Une famille à la fois classique et pas tout à fait ordinaire, malgré tout, en raison à la fois de cette dimension binationale et du lieu de vie. Alors, la première question donc qu'on s'est posée, c'est qui est finalement cet Arabe du futur dont parle le titre du livre ?
Réponse Riyad Satouf.
Eh bien, en fait, l'Arabe du futur, c'est une expression que utilisait mon père pour me motiver à aller à l'école. Quand je voulais pas aller à l'école, il me disait tout le temps, mais tu dois aller à l'école parce que l'Arabe du futur va à l'école. Pour lui, l'Arabe du passé était analphabète, illettré, et ça devait changer. Et en fait, mon père, qui était originaire d'un milieu paysan très modeste, en fait, était le seul de sa famille à avoir pu aller à l'école. Parce qu'il était comme il était le plus jeune, ils avaient essayé d'en mettre un à l'école pour voir si ça faisait quelque chose. Ils étaient tous paysans. Et finalement, il était très, très bon. Il avait réussi à aller assez loin grâce à ses études. Il avait obtenu une bourse à la Sorbonne. Il avait été invité en France, donc il avait fini ses études, il était devenu docteur en histoire. Et il était assez brillant, et donc il avait une proposition pour aller enseigner à Oxford, et lui a préféré retourner plutôt dans le monde arabe, donc enseigné en Libye, dans la Libye de Kadhafi, et ensuite à l'université de Damas, dans la Syrie d'Hafez al-Assad, parce qu'il voulait participer à l'éducation de cet homme arabe du futur. Mon père était un nationaliste arabe, c'était un supporter du panarabisme, il pensait que le monde arabe devait se libérer de ses attaches et accéder à une sorte d'indépendance vis-à-vis des grandes puissances, entrer dans la modernité. Voilà, il est...
Mais finalement, c'est Isabelle. Lui. Merci Guillaume. C'est lui l'arabe du futur. Mais vous disiez au début de votre propos qu'il était le plus jeune de la famille. Et donc, c'est lui auquel on a fait faire des études. Et donc, première question, parce que c'est finalement plutôt les aînés, en général, qu'on promeut, d'une part. Et d'autre part, quel était le sujet de sa thèse en histoire ? Vous avez évoqué ce diplôme.
Ziyad Satouf.
Alors, si je me souviens bien, parce que j'ai essayé de la lire plusieurs fois, mais je n'ai jamais vraiment réussi à... C'est une thèse sur les relations entre l'Angleterre et l'URSS pendant la guerre froide. Enfin, lui, il l'a fait en plein milieu de la guerre froide, mais il était docteur en politique contemporaine. Et donc, c'était très... Alors, il parlait très très mal français, mon père. Et en fait, c'est ma mère qui a tapé sa thèse. Ce qui fait qu'en fait, je la soupçonne, c'est sa thèse à elle, en fait. Enfin, c'est elle qui a fait le...
C'est intéressant dans la répartition des rôles.
Et c'est quelque chose qu'elle a souvent, elle m'a souvent raconté, parce qu'elle me disait, mais mon père, quand il était là, oui, parce que moi, je veux faire de la politique. Ma mère remettait en français, en fait, tout ce qu'il disait.
Donc, c'est votre mère qui était très brillante.
Je pense que c'est elle qui méritait d'être docteur et pas lui.
Delphine Diaz.
Oui, justement.
Une question à Riyad, cette
sur fois. La figure de la mère qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'on a beaucoup d'éléments dans votre œuvre hein, sur la figure du père, même si la relation est toujours un peu ambivalente hein, par rapport à cette figure paternelle. La mère est-elle beaucoup plus discrète, surtout dans les deux premiers tomes, et elle semble un peu s'affirmer, hein, sans dévoiler l'intrigue, hein, dans ce troisième tome. Alors, voilà, quelle était un petit peu plus précisément cette relation avec cette figure de la mère qui est catapultée comme ça de la Bretagne à la Syrie, qui passe quand même beaucoup d'après-midi à s'ennuyer, à faire des puzzles, à faire une tapisserie qu'elle finit au début du troisième tome. Et je voulais aussi vous poser une question plus large sur ce rapport à la mère dans votre enfance a pu avoir comme influence sur votre représentation des femmes dans la société.
Voilà, on va faire un peu de psycho-histoire. Vous pouvez vous allonger. Vous allez tout nous dire. Alors, votre représentation des femmes, Riyad Satouf.
Mais c'est vrai, voilà, quand j'ai commencé à faire l'arabe du futur, je cherchais un point de vue qui puisse me convenir en tant qu'auteur, parce que je ne suis pas très amateur des récits autobiographiques nombrilistes, disons. C'est pour ça que j'ai centré cette histoire sur le rapport entre le petit garçon et sa fascination pour son père. Parce que, en fait, simplement d'un souvenir d'enfance, je crois que à ces années-là, ces années où j'étais très jeune, j'avais encore une sensation d'être en osmose avec la mère. Je ne sais pas comment dire. Pour moi, elle faisait partie de moi.
C'est ce qu'on appelle l'Oedipe.
Hein. Bah, voilà, bah, c'est ça. Donc, c'est vrai que pour moi...
Mais ça passe. Voilà.
Parfois, pas toujours.
C'était pas un corps étranger que j'étais amené à observer, etc. Et c'est vrai que dans les faits, en fait, à cette époque-là, notamment dans les premiers volumes de l'Arabe du futur, mon père avait voulu retourner en Syrie et il attendait impatiemment de devenir millionnaire. C'est-à-dire qu'il puisse se voir proposer un poste prestigieux quelque part. Il espérait devenir vraiment quelqu'un parce qu'il était beaucoup plus éduqué que la moyenne. Et ma mère attendait aussi qu'il devienne riche. Enfin, tout le monde attendait. Mais sauf qu'on habitait dans un petit village, le village d'origine de mon père, et donc les conditions de vie étaient assez difficiles. Et c'est vrai que ma mère ne parlait pas arabe, elle était la seule européenne du village. Finalement, on n'était pas du tout riche et elle attendait et elle s'ennuyait. Et c'est pour ça que son rôle va être amené à évoluer dans la suite. Dans le troisième volume, justement, elle commence à en avoir marre et veut retourner vivre en France.
Mais alors justement, c'est intéressant puisque aujourd'hui, en cette rentrée littéraire, on parle beaucoup à la fois de réel dans la fiction, de fiction dans le réel. Vous, c'est ce que vous faites depuis le premier tome. Qu'est-ce qu'il y a de fictionnel ? Qu'est-ce qu'il y a de vous là-dedans ? Par exemple, vous dépeignez un enfant qui était blond, qui était très blond, et vous, je crois que vous êtes très brun, Riyad Satouf.
Oui, c'est vrai, mais je crois que c'est assez fréquent. Il y a pas mal de gens qui commencent leur vie blond et qui après perdent leur blondeur. Moi, c'est vrai que à travers l'autobiographie, je suis souvent gêné par la façon dont les auteurs peuvent se représenter. Ils se représentent toujours en étant trop gentils avec eux-mêmes, notamment dans les bandes dessinées. Je trouve que quand dans les bandes dessinées autobiographiques, les gens se dessinent trop beaux. Et donc, j'avais souvent un problème pour me représenter, sauf que je me suis souvenu que quand j'étais enfant, j'étais somptueux. Donc en fait, ça a complètement tout libéré. C'est-à-dire, j'avais des cheveux blonds gigantesques. Les femmes voulaient me toucher toujours. Et en fait,
ça a pas changé.
C'est gentil, Guillaume. Mais c'est vrai que je vais raconter le moment où on quitte le paradis de l'enfance et qu'on se retrouve avec la réalité concrète de l'adolescence. Et voilà. Et c'est vrai que c'est une métaphore que je dis souvent, mais j'ai un sentiment d'avoir eu une petite enfance comme un elfe, et à l'adolescence je me suis transformé en troll. Mais j'étais un troll qui avait gardé la mémoire de l'elfe qu'il a été. Et cette injustice de la vie, c'est un moteur. Voilà.
Écoutez, pour rester dans les elfes et les trolls, et je crois pour la première fois dans l'histoire de France Culture, voici la musique de Conan le Barbare. C'est une musique qui a beaucoup compté pour vous, Riyad Satouf. Et il faut nous expliquer pourquoi, quel rôle elle joue dans le troisième tome de l'Arabe du futur.
Eh ben, en fait, donc, pour améliorer nos conditions de vie et pour faire plaisir à ma mère, mon père s'était mis à la recherche d'éléments de modernité. Il avait trouvé un vidéoclub à Homs qui louait des cassettes vidéo Betamax pirates avec des films européens qu'on pouvait emprunter comme ça. Et donc, il allait là-bas louer des films. Et le responsable de ce vidéoclub partageait la même passion que moi pour les films extrêmement violents, les films post-apocalyptiques, c'était des nanars, des séries Z, pas possible. Et un jour, j'avais vu tous les films en fait, qu'il avait, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et un jour, il vient et me dit, j'ai reçu un truc exceptionnel, c'est un chef-d'œuvre. Et il me tend la pochette de Conan le Barbare. Donc je vois Arnold Schwarzenegger en slip, comme ça, avec son épée. Et la vision de ce corps extrêmement puissant et viril, déjà, m'a bouleversé. J'ai voulu tout de suite lui ressembler un jour. Et en plus, mon père trouvait ça plutôt positif, parce qu'il trouvait que j'étais un petit peu une chochotte. Et que le fait de voir des films ou des gazbas avec des épées et tout, c'était un truc qui pouvait faire de moi un homme. Et donc j'ai regardé ce film très tôt. C'était un film en version française qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un film très violent et assez étonnant.
C'est une période dont vous êtes spécialiste d'ailleurs, Isabelle Landonna, la période des barbares. Question à Riyad Satouf.
Je ne suis pas spécialiste des barbares. Alors, on évoquait.
Ne veniez pas.
On évoquait à l'instant le paradis de l'enfance. Et je voudrais revenir sur finalement ce qui a pu déclencher ce travail d'écriture autobiographique. Vous avez dit quelque part que le déclic venait de 2011, c'est-à-dire le début du conflit en Syrie, et que ce conflit vous a conduit à tenter de faire venir vos proches en France. Donc on entre ici dans la thématique de l'exil que vous avez connu. Et cet exil que vous essayez de mettre en œuvre en quelque sorte pour votre famille en 2011 vous a poussé à revenir sur cette enfance qui fut la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment les choses se sont articulées de ce point de vue-là dans votre esprit ?
Eh bien, Riyad Satouf. J'avais ce projet depuis plusieurs années déjà, parce que je me disais que ces années-là avaient été riches et intéressantes et que je souhaitais en faire quelque chose, mais je n'ai pas voulu tout de suite m'y atteler, peut-être parce que ça me faisait peur aussi d'aborder ces années que j'avais un peu rangées dans un coin, et aussi parce que je ne voulais pas être tout de suite l'auteur de bande dessinée avec un nom un peu exotique qui fait tout de suite une bande dessinée sur ses origines. Donc c'est pour ça que j'ai fait plein de bandes dessinées qui n'avaient rien à voir, que j'ai fait des films. Mais c'est vrai qu'en 2011, quand la guerre civile a commencé en Syrie, j'ai dû aider une partie en effet de ma famille qui vivait encore à Homs à quitter la Syrie. Parce que je pensais vraiment qu'il n'y aurait jamais de révolution en Syrie. Je ne pensais pas que ça arriverait en fait. Mais une fois que ça avait commencé, j'étais certain que ça finirait très très mal. Donc j'ai essayé tout de suite de les faire sortir très vite. Et j'ai eu beaucoup de difficultés en France, en fait, pour obtenir des autorisations tout à fait légales. Et donc c'est vrai que j'ai eu envie, peut-être dans un côté de revanche, enfin c'est mon moyen d'expression, le dessin et la bande dessinée, donc je voulais raconter comment c'était galère de faire venir des étrangers en France, alors qu'on croit souvent que c'est très facile, en fait c'est très très compliqué. Mais pour pouvoir le raconter, il fallait que je raconte toute l'histoire depuis le début, et je me suis dit, je vais me lancer là-dedans et raconter ces années-là.
Delphine Diaz, une question à ce sujet, puisque vous êtes spécialiste de l'exil. Exil entre les deux mondes, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez publié.
Oui, alors sur l'exil, justement, parlons de l'exil syrien, c'est 5 millions de personnes qui sont sur les routes de l'exil aujourd'hui. Une génération entière qui vit cette catastrophe et qu'on peut réinscrire aussi dans une crise du refuge beaucoup plus large qui concerne pas seulement les Syriens, mais d'autres nationalités également. Alors justement, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la situation française, puisque vous en avez fait expérience vous-même en essayant de faire venir des proches en France? Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que citoyen, du rôle de la France comme terre d'asile, des déceptions qu'elle peut provoquer, à la fois de point de vue de citoyen à nous et du point de vue des gens qui essayent de demander asile chez nous. Je rappelle quelques chiffres. L'an dernier, en 2015, on a accueilli en France 26 000 réfugiés contre près d'un million en Allemagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela? Également, des très récentes actualités. On sait qu'un plan de répartition des migrants a été adopté par Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'accueil, par exemple, de réfugiés syriens qui seraient envoyés dans des régions comme la Bretagne, par exemple, que vous connaissez bien par ailleurs?
Riyad Satouf.
C'est une question très pertinente. Moi, à mon point de vue, je ne parle que pour moi, évidemment, je suis vraiment pour l'accueil des réfugiés, et notamment syriens, parce que je pense que ce sont des gens qui fuient la guerre et qui ont très envie de s'intégrer pour le coup. C'est-à-dire qu'il faut les aider. Ce ne sont pas... je sais pas comment... C'est vrai que l'Allemagne a été beaucoup plus ouverte et généreuse, et je suis un peu déçu de la réaction de la France, en effet, mais je le raconterai dans la suite de l'Arabe du futur. C'est vrai que c'était très délicat de... Enfin, j'ai eu des refus pour toute ma famille, en fait.
Refus, on n'a pas laissé une partie de votre famille qui souhaitait venir en France.
Je ne raconterai pas dans les détails tout le truc, parce que je me le garde pour mes livres, mais c'est vrai que, disons que en tant qu'auteur de bande dessinée, j'ai bien réussi socialement. Donc, quand vous voulez demander des visas pour des étrangers, vous devez donner votre compte en banque, vous devez donner votre déclaration d'impôt pour être sûr que vous pouvez vous occuper des étrangers qui viennent, etc. Ils n'ont pas le droit de rester là. Enfin, j'ai eu des refus sur toute la ligne.
Est-ce que ça vous a déçu de votre pays, de la France, Riyad Satouf?
Disons que j'ai été extrêmement déçu, oui, mais je ne portais pas non plus au pinacle les capacités d'accueil de la France non plus à cette époque-là. C'est-à-dire, je me disais, mon Dieu, la France me déçoit. Je me disais, oui, c'est horrible. Enfin, je me suis battu et j'ai finalement réussi.
Merci Riyad Satouf de nous avoir exposé votre vision de l'Arabe du futur. On vous retrouve évidemment à 8h20, l'Arabe du futur tome 3. C'est le livre que vous venez de publier aux éditions Alary, et puis vous continuerez donc à dialoguer avec deux historiennes, Delphine Diaz, qui a publié Exil entre les deux mondes, et Isabelle Eulandena, qui a publié Règles et dérèglements en milieu clos.